BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir dans les cryptos et la blockchain, peut-être. C'est jour spécial ou nuit spéciale, puisque dans quelques heures, le halving devrait avoir lieu. Vous le savez, tous les 4 ans à peu près, la production de Bitcoin est divisée par 2. C'est le halving, il y en a déjà eu 3. On attend donc le 4e. Des poterons minés demain, entre vendredi 19 avril et samedi 20 avril, pour ceux qui nous écouteraient à une autre heure du jour ou de la nuit. À quoi faut-il s'attendre à très court terme et puis à plus long terme? Pour en parler, évidemment, Amaury Tonquédec est avec nous. Rebonjour Amaury.
Rebonjour Lorraine.
Aux manettes de cette émission, nous saluons votre professionnalisme, mais aussi aux manettes de BFM Crypto, le club, tous les jours de 15h à 15h à 21h et bien sûr en podcast à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Nous sommes également avec Gilles Santacreux, notre trader avec ses algos. Rebonjour Gilles.
Bonjour.
Du site boursicoté.com, vous avez un peu notre fil rouge technique aujourd'hui avec vous. On va regarder les impacts techniques de ce halving. Et puis Stéphane Ifra de l'équipe CoinHouse. Bonjour Stéphane.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes responsable des solutions d'investissement et de la gestion avec vous. On va aussi évoquer les sujets macro. Hein, on va essayer de faire un portrait pour que tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient investis ou non en crypto, s'y retrouvent. On va commencer par un peu de définition. On l'a beaucoup dit, Amaury n'en peut plus. Toutes les heures, on vient le voir à la rédaction. Alors, c'est quoi le halving et tout? Bon, Amaury, rappelez-nous rapidement.
Bon, le halving, c'est la diminution par deux des récompenses allouées aux mineurs. Et ça se passe en moyenne tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs. Là, c'est le 4e halving depuis la création du Bitcoin. Et donc, ça nous rappelle que le Bitcoin est rare et qu'il est de plus en plus rare.
Est-ce que le Bitcoin est le symbole de la nouvelle rareté? Vous en parliez hier avec le patron de Paymium.
Bah, pour lui, il dit que en fait, le halving, c'était le gros événement du halving, c'était en 2012 lors du premier, mais que l'événement de cette année, pour lui, hein, pour Pierre Noiset, c'est plutôt les ETF. Les ETF, a priori, devraient avoir, on va en parler, mais un plus gros impact sur le cours que le halving en lui-même. Mais c'est plus une célébration de la rareté dans le monde numérique.
Une célébration. Voilà, nous célébrons ce halving qui arrive en tout cas tous les 210 blocs. Nous allons parler de blockchain. Mais j'aimerais vous poser, Amaury et peut-être Stéphane en plateau, une question. C'est celle de Franck qui nous a écrit au début de l'émission à l'adresse directe à bfmbusiness.fr qu'on salue. Franck qui nous dit tout simplement: j'aimerais savoir si le halving va faire baisser la valeur du Bitcoin.
Alors, si on se réfère au passé, globalement, l'impact du halving, le jour même du halving, en gros, a assez peu d'impact. C'est plutôt, on va dire, sur la longueur après qu'on voit un impact plutôt positif, principalement lié au fait qu'on raréfie l'offre, mm-hmm. puisque avant le halving, il y avait un certain nombre de blocs qui étaient octroyés aux mineurs. Le lendemain du halving, ils ont la moitié de ces blocs-là. Et il faut bien voir que ces gens-là sont des vendeurs naturels de Bitcoin, parce qu'il faut qu'ils financent leurs opérations. Sauf que du jour au lendemain, eh bien, ils ont moins à vendre sur le marché. Et c'est ce qui fait que souvent, 12 à 18 mois après, on a un effet très bénéfique sur les cours.
Des vendeurs naturels de Bitcoin. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les mineurs, Amaury?
En fait, la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que ce halving-là aura un impact différent des autres sur le prix du Bitcoin? Peut-être, parce qu'on a un événement exogène qu'on a eu en début d'année, c'est l'approbation des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Il se trouve que avant les autres halvings, le cours du Bitcoin n'était proportionnellement pas aussi important. Je le rappelle, le Bitcoin a battu son record historique avant le halving, ce qui n'était jamais arrivé. Il se trouve que les mineurs, là, dans quelques heures, cette nuit, on va dire, enfin en tout cas samedi matin très tôt, enfin demain matin très tôt, leurs récompenses vont être divisées par 2. Ce qui veut dire que pour un même travail, leur chiffre d'affaires va être divisé par 2. Ça va moins leur faire mal si on a un Bitcoin à 60 000 dollars plutôt qu'un Bitcoin à 30 000. Donc là, sachant qu'on est particulièrement élevé par rapport aux autres halvings, peut-être que même les Bitcoins qui étaient un peu justes, on va dire, niveau trésorerie et qui n'auraient pas forcément... même les mineurs, pardon, qui étaient un peu justes au niveau trésorerie, qui n'auraient pas forcément bien anticipé, ils ne seraient pas forcément obligés d'en vendre, en tout cas d'en vendre autant. Donc peut-être qu'on aurait une pression vendeuse moindre et donc... que le cours baisserait moins à court terme, ou en tout cas monterait plus. Voilà,
Peut-être qu'en termes d'ordre de grandeur, effectivement, on a parlé beaucoup des ETF, qui est quelque chose qui a changé un petit peu la donne sur le marché. Depuis le lancement de ces ETF le 10 janvier, globalement, il y a eu 220 000 bitcoins en net qui ont été collectés par l'ensemble des acteurs qui proposent des ETF. Ça fait une moyenne, alors je crois que c'est à peu près 3500 ou 3600 bitcoins par jour. Donc, encore une fois, c'est une moyenne. Il y a des fois, il y a plus de collectes, il y a des fois, il y a moins de collectes. Mais en face, jusqu'à aujourd'hui, par jour, étaient produits 900 nouveaux bitcoins. Demain, il en sera produit que 450 nouveaux bitcoins. Donc on voit quand même qu'il y a une sorte de déséquilibre entre l'offre et la demande. En tout cas, si on ne prenait que les ETF comme acheteurs de bitcoins et que les mineurs comme vendeurs de bitcoins, on voit qu'il y a une sorte de disproportion entre la demande et l'offre. Voilà.
Justement, Stéphane, pour ceux et celles qui nous écoutent, qu'ils soient investis ou pas en bitcoin, en fait, comment ça nous concerne ? Là, on parle des mineurs. Déjà, dites-nous, qui sont les mineurs, notamment par exemple en France ? Est-ce qu'il y a un profil type du mineur ou de la mineuse de
Bitcoin ? Non, alors historiquement, les premiers mineurs, c'était des gens qui avaient juste un simple ordinateur. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de besoin de puissance de calcul. En gros, c'est pour faire du minage, il faut résoudre un problème mathématique et ça se résume à de la puissance de calcul. Donc historiquement, quand il y avait très très peu de gens qui s'occupaient de participer à la sécurisation du réseau, il y avait très peu de mineurs. Et avec un simple ordinateur, on pouvait faire du minage. Aujourd'hui, maintenant, c'est plutôt des très grands data centers qui vont être organisés pour faire ce minage. Et souvent, d'ailleurs, maintenant, il y a des gens qui même se mettent ensemble. Ils font ce qu'on appelle du pooling pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et puis, ils se partagent les gains. Parce que plus vous êtes gros, plus statistiquement, vous allez gagner des blocs. Et plus vous allez pouvoir, quelque part, payer vos coûts d'opération.
Effectivement, comme le dit Stéphane, il faut aujourd'hui une puissance de calcul telle que ça s'est professionnalisé. Maintenant, on peut plus à Paris miner du Bitcoin dans sa maison ou son appartement, en tant que particulier en tout cas, parce que de un, l'électricité est trop chère, puis après, il faut des machines tout simplement de professionnels. C'est un vrai métier. À noter peut-être une remarque, c'est intéressant, c'est que aujourd'hui, on a un peu deux types de mineurs. On a à la fois les très très gros mineurs qui eux vont investir dans des machines très performantes, qui vont abattre le plus de puissance de calcul possible pour une consommation d'électricité moindre, mais qui vont payer de l'électricité en moyenne plus cher que les petits, eux, qui vont se concentrer principalement sur des énergies renouvelables, mais avec des machines moins chères, moins performantes, mais ils rattrapent le coût, entre guillemets, en arrivant à capter de l'électricité, elle, moins chère. Donc ça va être un peu intéressant de voir tout ça. Et j'avais Sébastien Gouspillou au téléphone, qui est un mineur du Bitcoin, hier, qui m'expliquait, et c'est assez intéressant, qu'en fait, ces gros mineurs de Bitcoin-là, eux, maintenant, c'est devenu des entreprises telles, de taille tellement importante, qu'ils pourraient se permettre, pendant quelques mois, de miner à perte si ça devait arriver, parce qu'ils ont accès à des financements pour certains publics ou privés assez importants, ce qui n'était pas du tout le cas avant.
Bon, on voit quand même cette professionnalisation du minage de Bitcoin. On va y revenir, mais on est avec Gilles Santacreux en duplex. Rebonjour Gilles.
Bonjour.
Gilles, vous êtes trader algorithmique, administrateur du site boursicoté.com. On vous entend souvent sur les sujets crypto, notamment le vendredi sur notre antenne. Qu'est-ce qu'on peut anticiper d'un point de vue technique de ce halving ? Racontez-nous ce que vous prévoyez.
Alors, la configuration technique, elle transparaît au travers de l'évolution des cours du Bitcoin. Ce que l'on peut observer, en tout cas récemment, c'est que malgré une perte de dynamique haussière, on a eu une cassure d'un support oblique le 12 avril qui a interrompu une dynamique haussière. Et donc, on est venu s'appuyer sur une zone de support qui est très intéressante. C'est la zone des 61 000 dollars pour un Bitcoin. Et ce que l'on peut observer, c'est que malgré toutes les inquiétudes qui apparaissent aujourd'hui, on a une certaine résilience du Bitcoin et une certaine solidité aussi justement par rapport à ce support. Même cette nuit, on a eu une baisse donc suite à la réplique d'Israël par rapport au contexte géopolitique, et on est venu tester cette zone. Alors on a une zone, on est entre 59 000 et 61 000. Le point bas, il avait été marqué après franchissement de cette zone horizontale le 5 mars, et on est venu tester cette zone et on est vite remonté. Alors, la perspective du halving doit certainement contribuer justement à la solidité de cette zone de support. Et c'est justement en cas de rupture de ce support qu'il faudrait se poser les questions. puisqu'on aurait eh bien, possibilité d'une accélération d'une dynamique baissière. D'un point de vue court terme, depuis donc la rupture que je vous indiquais tout à l'heure, le 12 avril, on est dans une petite dynamique baissière, court terme, mais on est retenu donc par cette zone des 61 000 dollars. Donc clairement, pour l'instant, on reste dans une phase de neutralisation, puisqu'en fait, on est dans ce range, donc au-dessus de cette zone de support, et entre les points hauts historiques du Bitcoin, donc proche des 74 000 depuis le mois de la fin du mois de février. Tant que l'on reste dans ce range, on est dans une phase de consolidation horizontale, mais dans une tendance de fond qui reste haussière. Si on venait à casser les 61 000, on passerait dans une dynamique potentielle de retournement de tendance qui pourrait nous amener à un retour sur les 52 500 dollars pour un Bitcoin. Mais globalement, tant que l'on reste au-dessus des 61 000, petit biais baissier court terme. Mais si on repassait au-dessus des 68 800, on reprendrait une petite option donc positive qui serait confirmée par l'inscription d'un nouveau plus haut historique donc sur cette crypto-monnaie.
Gilles, à court terme, on le voit, hein, si l'on observe les performances du Bitcoin depuis le pic de fin février, hein, quand il était autour de 73 000 dollars, le Bitcoin, l'arrivée du halving n'a pas réussi à fournir l'impulsion espérée ou attendue qu'on a pu voir au précédent halving. Est-ce qu'il n'y a pas un petit sentiment de sell the news? Est-ce qu'on n'a pas déjà digéré l'info et finalement, ce quatrième halving, eh bien, il n'a pas les mêmes effets que les précédents?
Je le verrai pas comme ça. On a un contexte qui est peut-être différent. Alors j'ai pas sourcé les contextes, je dirais économiques des précédents halvings, mais on est aussi dans un contexte où sur la plupart des indices mondiaux, on a aussi une perte de dynamique haussière. On rentre dans une phase de stabilisation, voire de consolidation hein, sur d'autres. Et en fait, ce que l'on remarque, c'est que sur le Bitcoin justement, on limite la casse par rapport justement à cette phase de consolidation. Donc peut-être que la perspective du halving, faut toujours se rappeler hein, que les marchés boursiers sont des marchés d'anticipation. Donc en fait, c'est pas le jour du halving où on va constater une hausse, c'est-à-dire que les investisseurs tiennent compte de cet événement peut-être jusqu'à 6 mois avant. Donc c'est ce qui a pu expliquer peut-être la surperformance du Bitcoin notamment sur toute la période que l'on a eu entre février et mars où on a eu une forte hausse. Peut-être que là on a anticipé justement ce halving et que on a donc surperformé et donc connu une forte hausse sur cet actif pour ensuite se stabiliser. Mais actuellement, non. Là, le halving, il est acté. Donc, on est plus sur une phase d'attente, plus sur une zone technique qui dépend aussi de la corrélation que l'on a par rapport au reste du marché, des marchés boursiers mondiaux.
Merci, Gilles. Vous restez branché avec nous, Gilles, de l'équipe boursicoté.com. Il y a quand même une question de contexte géopolitique. Cette semaine, Amaury, on a pas mal discuté dans cette émission et puis en préparant nos émissions au quotidien du rôle refuge ou pas que joue le Bitcoin. Quel est votre regard, Stéphane et Amaury, avec la dose, si je peux dire, de risque géopolitique supplémentaire avec l'attaque par Israël de cibles iraniennes cette nuit? Le halving dans ce contexte géopolitique, qu'est-ce que ça donne? Stéphane, peut-être d'abord.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le contexte géopolitique, mais il y a également le contexte macroéconomique. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'en tout début d'année, le marché s'attendait à avoir 7 baisses de taux aux États-Unis et que depuis, ils ont revu très très fortement à la baisse ces anticipations parce que finalement, les données économiques sont bien plus vigoureuses qu'anticipées par la Fed à ce moment-là. Mmh. Aujourd'hui, on n'anticipe plus que 2 baisses de taux. Donc le marché a dû digérer quand même un petit peu cette transition et il faut bien voir qu'une bonne partie de la hausse qu'on a eue sur les 3-6 mois, à la fois sur les cryptos mais également sur les marchés d'actions traditionnels, ont été en particulier alimenté justement par cet espoir de baisse des taux. Pour autant, on regarde, la plupart des actifs risqués sont très très proches de leur plus haut. Et effectivement, très récemment, ça fait une petite semaine, que le marché est influencé par la géopolitique. Voilà. Je suis pas très convaincu qu'on va aller très très loin. Quand on regarde un peu les commentaires qu'il peut y avoir, on va dire, d'un côté comme de l'autre, des protagonistes, on sent bien qu'il n'y a pas une véritable velléité à envenimer plus que nécessaire. Ils ont besoin de montrer un peu les muscles, ils ont besoin de montrer qu'ils sont, on va dire, souverains dans leur état. Je suis pas convaincu qu'ils aient envie d'aller vraiment à une confrontation directe.
Amaury, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est intéressant de voir la réaction du Bitcoin face au risque géopolitique. On voit qu'effectivement, là je parle pas de cette nuit mais du week-end dernier, on a vu une chute du Bitcoin, moins 9, moins 10% à peu près. Bon, encore une fois, à relativiser quand on dézoome, hein, même avec moins 10%, on est à quasiment plus 120% sur un an. Donc c'est pas si spectaculaire que ça. Mais il a baissé quand il y a eu les événements géopolitiques le week-end dernier. À l'inverse, l'or, et c'est intéressant, il y a une crypto qui s'appelle le Pax Gold qui est indexée sur l'or, qui, elle, a monté. En tout cas, elle n'a pas baissé comme le Bitcoin. Donc, on a vu que quand il y a un événement comme ça, c'est plutôt l'or qui monte et le Bitcoin qui baisse. Maintenant, de quoi nous protège, entre guillemets, le Bitcoin aujourd'hui? Je pense qu'à court terme, ça ne protège pas forcément des risques géopolitiques, mais plus que des risques de perte de valeur de la monnaie d'une manière générale et de l'effondrement de certaines économies. Donc, c'est plus... Aujourd'hui, moi, je le vois plus comme une réserve de valeur long terme qu'une valeur refuge court terme contre des risques géopolitiques.
Justement, vous parlez du Pax Gold. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, PAX plus loin, Gold, ou en podcast d'ailleurs. Flora m'a écrit il y a quelques semaines sur LinkedIn. Elle me dit, vous parlez tout le temps des cryptos, mais surtout du Bitcoin. C'est la plus grosse capitalisation, certes, mais ça n'est qu'une crypto parmi les autres. Quelles conséquences de ce halving sur les autres cryptos, Stéphane?
Alors, historiquement, quand on a regardé, si on regarde un peu en arrière sur les autres cryptos hors Bitcoin au moment du halving, en fait, souvent le halving, c'est le point où la dominance Bitcoin, c'est-à-dire la représentation ou la part du Bitcoin dans l'ensemble des cryptos, atteint un maximum local. Et donc, à partir du jour du halving, en gros, les altcoins ont tendance, historiquement, encore une fois, ça peut changer, mais à mieux se comporter que le Bitcoin. Voilà. Donc, on ne sait jamais, encore une fois, si l'histoire va se répéter. Mais faute de mieux, c'est potentiellement quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que c'est pas forcément le Bitcoin qui va bénéficier du halving. Ça sera peut-être les autres cryptos qui vont mieux en bénéficier.
Amaury, votre stratégie altcoin va-t-elle payer?
Non, mais ce qui se passe, c'est que là, effectivement, comme le dit Stéphane, là, on a un record de dominance du Bitcoin sur 3 ans, hein, qui était il y a quelques jours, là, cette semaine, à plus de 53%.
53% donc, de quoi? Dites, pour ceux qui nous...
Ça veut dire que ça représente 53% de la capitalisation totale du marché crypto, donc plus de la moitié. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, Bitcoin, c'est la reine des cryptos. Quand le Bitcoin monte, tout monte. Quand le Bitcoin baisse, tout baisse. D'ailleurs, on l'a vu, hein, les événements géopolitiques de week-end dernier, Bitcoin perd moins 10%, la plupart des altcoins, parfois, ça allait jusqu'à moins 30%, voire beaucoup plus. Donc, les autres sont beaucoup plus volatiles, notamment parce qu'ils sont moins capitalisés, donc le cours baisse plus facilement, et il y a peut-être moins de confiance et d'investisseurs long terme positionnés dessus. Maintenant, comme vient de le rappeler Stéphane, ce qui va se passer, c'est que là, a priori, on a atteint peut-être pour ce cycle-là le pic de la dominance de Bitcoin, et petit à petit... après le halving, en tout cas dans les précédents halving, ça a mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour que le cours du Bitcoin s'apprécie, le temps que ça infuse un petit peu, entre guillemets. Et dès que le Bitcoin va finalement se stabiliser ou commencer à monter, a priori, derrière, le reste du marché devrait monter, mais beaucoup plus fort, lui, derrière, parce que tout simplement, il est moins capitalisé, donc plus volatile.
Gilles Santacreux, vous êtes en duplex avec nous. Justement, l'effet sur les autres cryptos, d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête là, dans les prochaines heures?
Alors, l'effet sur les autres crypto-monnaies, moi, je m'en sers plus pour mesurer justement l'impact du halving sur le Bitcoin. Si on compare avec une autre grosse crypto-monnaie qui est l'Ethereum, ce que l'on peut voir, c'est que sur justement la phase que l'on a d'évolution entre mars et maintenant, on a un biais beaucoup plus baissier sur l'Ethereum que ce que l'on a sur le Bitcoin. Tout à l'heure, je vous parlais de la zone des 61 000 dollars pour un Bitcoin. On a une zone qui est à peu près équivalente sur l'Ethereum à 3 130 dollars pour un Ether. Et ce que l'on observe sur la phase actuelle, c'est que cette zone des 3130 dollars pour un Ether, elle a été cassée sur l'Ether, alors que la zone équivalente, je dirais actuellement, des 61 000 dollars sur le Bitcoin a été préservée. Donc, c'est peut-être effectivement un effet justement du halving qui préserve un petit peu le Bitcoin par rapport à d'autres crypto-monnaies. Pour l'instant, en tout cas, ce que l'on observe, c'est que le Bitcoin surperforme l'Ethereum sur une dynamique, je dirais, court terme, et que c'est peut-être lié à l'impact de cet halving. Après, on peut penser que si le Bitcoin est aspiré à la hausse, eh bien, il y aura un phénomène de suivi qui agira sur les autres principales crypto-monnaies qui pourra donc s'opérer, et on peut constater effectivement une hausse de la part de d'autres crypto-monnaies.
Stéphane?
Oui, alors effectivement, d'ailleurs, ce phénomène, on va dire, de surperformance des altcoins versus le Bitcoin, on l'a un petit peu vu dans les 6 derniers mois. Il y a eu une première phase entre, on va dire, octobre et décembre, et une deuxième phase un petit peu avant la consolidation dans laquelle on se trouve, qui a démarré mi-mars, et qui a duré à peu près un petit mois. Pendant cette période-là, on a vu des très très grosses capitalisations, donc hors Bitcoin, qui ont très 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 largement fait beaucoup mieux que Bitcoin sur des périodes de quelques semaines. On a eu des fois 2, fois 3. Il faut rappeler par exemple qu'un Solana, il a quasiment fait un fois 10 depuis le mois d'octobre dernier avant de consolider. Voilà. Donc on voit déjà que dans le marché, il y a des velléités de pousser certaines cryptos, des grosses capitalisations, donc pas des toutes petites capitalisations, et ça a déjà un petit peu démarré. Par contre, c'est pas très continu, c'est pas très stable. Et ce qu'on peut espérer, c'est qu'à un moment donné, effectivement, ce phénomène se pérennise un tout petit peu plus, mais certainement plus tard dans le cycle. Juste pour revenir après sur ce qu'on peut espérer avec le halving. Historiquement, si on regarde les cycles précédents, à partir du moment où il y a eu le halving et jusqu'au top de marché, il y a deux cycles, donc en 2016 jusqu'au top qui a été fait en 2017, le marché a fait x30 entre le moment du halving et le top de marché, et le dernier cycle, donc entre mai 2020 et le top de marché, le marché a fait x8. Donc on voit bien que l'effet, à court terme, il est assez difficile finalement à anticiper et on est beaucoup plus soumis finalement aux news du moment. Par contre, sur les 12 à 18 mois qui suivent le halving, là, on peut espérer une grosse hausse sur le Bitcoin. Sachant qu'en plus, cette fois-ci, il y aura tout le flux institutionnel qui n'existait pas par le passé.
Un petit mot quand même des cours des valeurs dont on est en train de parler pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas forcément les valeurs défiler à l'écran. Solana se négocie autour des $143. Ether se négocie autour de $3104. Le Bitcoin, vous l'avez sans doute entendu depuis ce matin, est en dessous des $65,000. Amaury, peut-être pour conclure.
Non, mais effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas encore si on a eu une alt season. Ce qui se passe, comme l'a dit Stéphane, et on a eu des belles performances de certains altcoins. Maintenant, je pense que c'était aussi des performances dues à certaines narratives. C'est-à-dire que les alts qui ont le plus performé étaient portés par des narratives qui étaient séduisantes pour les investisseurs, comme l'intelligence artificielle, la tokenisation d'actifs réels. Et effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est voilà, avec le halving de Bitcoin, si ça se passe comme dans les cycles précédents, c'est-à-dire que le cours s'apprécie dans les semaines ou les mois après ce halving, on devrait, si ça se passe comme les cycles précédents, avoir de belles performances du reste du marché qui pourraient être largement supérieures, à court terme en tout cas, à celles du Bitcoin.
J'ai Raphaël qui m'écrit sur LinkedIn et qui me dit « Le halving, en fait, c'est une sorte de mise à jour du logiciel de politique monétaire de l'univers Bitcoin. » C'est vrai ?
On peut le voir comme ça, on peut le voir comme ça. En tout cas, c'est complètement décentralisé, c'est écrit dans le code.
Merci beaucoup à Amaury de Tonquédec, que vous retrouverez aux manettes tout à l'heure vers 15h de BFM Crypto, le club. Merci Stéphane Ifra et l'équipe de CoinHouse régulièrement au décryptage avec nous. Et merci Gilles Santacreux du site boursicoté.com, Gilles et ses algos, pour l'analyse technique de cet événement intergalactique qui concerne le Bitcoin et la blockchain, qui est le halving qui, d'après nos derniers calculs, devrait avoir lieu des potrons minés demain matin, samedi 20 avril, probablement dans la nuit. C'est ça, c'est toujours le cas.
Oui, c'est
là,
ça, très tôt. Il va falloir se lever tôt.
Autour de minuit.
Ah là là, ça ne fait que le cœur.
Il y a un site
aujourd'hui alors.
Non, ça sera légèrement après minuit, mais c'est autour de minuit.